Bonjour et bienvenue sur le 89.5 de la bande FM, www.radiodo.org pour l'écoute en ligne, le direct. Bienvenue sur Dio pour le rendez-vous mensuel réalisé en partenariat avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Vous le savez désormais, le troisième jeudi de chaque mois, un rendez-vous sur les ondes avec le GREMOS pour une émission mensuelle spéciale, après celle consacrée à l'installation d'ici et de là-bas, du côté du Puy Couriot, musée de la mine de Saint-Étienne. Et bien, un autre rendez-vous, autre programme, autre histoire aujourd'hui sur le 89.5, avec au menu, au programme, le congrès national de la Fédération nationale des travailleurs du sous-sol en juin 1948, un congrès qui se tenait à Saint-Étienne. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui nos deux intervenants spécialistes en la matière, historiens, membres actifs du collectif association, même groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Il s'agit de Jean-Michel Steiner et Maurice Bédouin, que l'on va retrouver dans un premier temps. Toute une émission qui va bien entendu s'appuyer sur un ensemble de documents archives dont vous allez nous en présenter l'essentiel. Maurice, bonjour à vous tout d'abord.
Bonjour. Oui, il s'agit donc d'examiner ce qui s'est passé à Saint-Étienne au début de juin, du 2 au 5 juin 1948, au cours du 49e congrès CGT, comme Lionel l'a dit, de la Fédération des travailleurs du sous-sol. Alors, une petite explication, c'est pas tout à fait les mineurs des mines de charbon, mais aussi les mineurs des mines de fer, de bauxite, de potasse et même les ardoisiers. Quant à sa tenue, c'est à la Bourse du Travail de Saint-Étienne. Et pour la circonstance, la Bourse du Travail était ornée de grands calicots, de drapeaux tricolores, évidemment. Et puis le hall était à l'occasion le théâtre d'une exposition de travaux de l'industrie stéphanoise. C'est-à-dire que l'on tenait à montrer aux congressistes la palette des activités stéphanoises. Quant à la salle des congrès proprement dit, elle avait été magnifiquement décorée, semble-t-il, avec des contreplaqués, avec des dessins de type un peu stalinien, de type constructiviste. Voilà. Alors, pour conduire ce travail d'aujourd'hui, nous nous sommes appuyés sur un certain nombre de documents, et vous devinez que le principal est celui qui est le rapport du 49e Congrès national. Mais paradoxalement, ce rapport, nous l'avons cherché en vain pendant plusieurs mois, Jean-Michel. Et il n'était pas dans les lieux attendus, ni dans les locaux de l'Institut d'histoire sociale à Saint-Étienne, ni ailleurs, ni au CEDMO. Alors, nous avons fait appel à François Dutheil, qui a bien voulu qui est à l'Institut d'histoire sociale de Paris, qui a bien voulu le photocopier, et ça a été un grand plaisir. Vous allez partager ce plaisir que nous avons eu de le découvrir. Nous nous appuyons aussi sur les comptes rendus des journaux de l'époque, et notamment sur les comptes rendus du Patriote, et puis d'un certain nombre de témoignages de personnes que nous avons rencontrées, notamment des membres de la famille Valla, qui nous ont remis une des photos du congrès où l'on voit Jean-Baptiste Valla. Et puis également, nous avions rencontré des membres de la famille de Francisque Perron, qui nous avaient mis en alerte sur le rôle de Francis Perron tout au cours de ce congrès. Par ailleurs, la chance que nous avons eue, c'était à l'occasion du colloque du CEDMO qui a eu lieu le 3-4 décembre 2010, colloque qui portait sur mémoire de mine, mémoire de lutte 1945-1985, la chance d'avoir eu la possibilité de rencontrer Achille Blondeau comme intervenant à ce colloque. Nous avons eu l'occasion de l'interviewer, et c'est cette bande sonore par laquelle nous allons commencer.
Simple précision, Maurice, c'est le CEDMO 42, pour précision aussi, c'est le Centre d'études et de documentation sur l'histoire, la culture et la mémoire du mouvement ouvrier dans la Loire. Voilà, autre association et collectif aussi qui œuvre à ce travail de mémoire locale. Je propose, si l'aspect aussi technique conviendra, de suivre donc cet entretien auprès d'Achille Blondeau.
Le congrès s'est tenu début juin. Moi, je me suis marié le 5 juin et le congrès s'est terminé le 5 juin. J'avais été mandaté par mon syndicat, j'étais dans le Nord, mineur dans le Nord, pour être délégué, et j'avais été proposé au Conseil national. Il y avait à l'époque un très grand effort pour le rajeunissement des cadres syndicaux. D'une part parce qu'il y avait beaucoup de camarades responsables qui étaient morts pendant la guerre. D'autre part, un certain nombre de militants syndicaux avaient trahi avec la charte du travail. Il fallait les remplacer. Et avec la nationalisation et le statut du mineur, des tâches nouvelles se posaient devant les syndicats et les comités d'entreprise aussi. Des tâches nouvelles se posaient devant les syndicats, il fallait des militants. Et la jeunesse est naturellement le vivier le plus important pour trouver des militants. J'étais aussi à l'époque secrétaire de la commission de la jeunesse pour la Fédération régionale des mineurs du Nord-Pas-de-Calais, fédération régionale qui s'était constituée au printemps 1948. Le cœur avait en quelque sorte imposé au syndicat des mineurs du Nord qui rejoignent le Pas-de-Calais dans une fédération régionale. Et j'avais d'ailleurs été nommé membre de la commission administrative de cette fédération régionale, secrétaire de la commission des jeunes. Il y avait à l'époque un très gros travail qu'on s'efforçait de faire parmi les jeunes. Il faut dire que les jeunes mineurs, c'était la majorité de la corporation. J'ouvre une parenthèse pour dire que une des raisons de la combativité si importante des mineurs lors des grèves de 1947 et de 48, c'est la jeunesse de la corporation. Et on est beaucoup plus combatif quand on a 20 ans que quand on en a 50. Alors, moi, je ne pensais pas participer au congrès parce que, avec mon épouse, bon, on avait d'abord prévu qu'on se marierait le 30 mai, puis je ne sais pas quel empêchement. Elle était d'origine espagnole, je crois que c'était une histoire de papier. Bref, il a fallu reporter la cérémonie au 5 juin, et le congrès se terminait le 5 juin. Et à l'époque, c'était Joseph Legrand qui était secrétaire général adjoint de la Fédération régionale. Le président, c'était Lecoeur. Le secrétaire général, c'était Henri Martel, mais Henri Martel, il était député du Nord. Et il faisait son boulot de député. Il était conseiller général. Il était secrétaire général adjoint de la Fédération des mineurs. Et bon, il passait, il n'a jamais accepté. Henri, j'en profite, hein, parce que je tiens vraiment à lui rendre hommage, c'est un de mes pères spirituels. Il n'a jamais pris une responsabilité sans essayer de l'assumer, mais il ne pouvait pas être en permanence à Lens. Donc en fait, le principal dirigeant, quand Martel n'était pas là, c'était Joseph Legrand. Et Joseph me dit, bon, on a prévu les travaux du congrès, les interventions, et tu vas faire une intervention sur les problèmes de la jeunesse dans le Nord-Pas-de-Calais. Puis j'ai dit, Joseph, je ne peux pas intervenir, je me marie. Marie 5. Tu te maries alors ? Eh bien, ils disent, je me marie, je ne veux pas être au congrès. Eh bien, il dit, tu te maries le samedi ? Le congrès, il se termine le samedi. Tu partiras le vendredi soir. Et c'est comme ça que, le vendredi soir, je me suis trouvé dans un wagon de 3e classe à la gare de Saint-Étienne, bondé, avec un gosse dans les bras de sa mère qui a pleuré toute la nuit. Je suis à l'époque, il fallait toute une nuit pour aller de Saint-Étienne à Paris. J'ai réussi à gagner un train à la gare du Nord à 8h30 pour arriver à midi à Douai. J'ai eu un bus à midi. Et à midi 20, j'étais chez moi. Vite manger, vite un bain et vite dans le lit pour me réveiller à 4h, 4h, 4h30 et être marié à 5h. Mais c'était ça à l'époque. Hein, et, j'avais accepté, ma femme qui était une militante l'avait accepté. On croyait à la révolution. Mais sincèrement, si on m'avait dit dans 60 ans tu seras interviewé et la révolution sera pas encore faite, j'aurais dit mais tu rigoles, non, tu plaisantes.
Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Donc ben, Le congrès de Saint-Étienne faisait suite à la scission de FO, qui avait été un échec dans la corporation. Roland Trempé l'a souligné dans plusieurs ouvrages. La corporation minière était acquise aux idées du communisme. Elle était acquise aux idées des socialistes avant la guerre. Les dirigeants syndicaux-socialistes avaient presque tous trempés dans la charte du travail. Ça avait été la croix et la bannière lorsqu'on a reconstitué l'unité syndicale en 1945 pour trouver des socialistes pour faire partie des organismes des directions. C'est Sinou qui a été secrétaire général adjoint de la fédération, Sinou le secrétaire du syndicat des mineurs de Carmont, socialiste, chartiste, qui n'a pas été exclu par la commission d'épuration CGT CFTC, parce qu'il fallait bien qu'il reste quelques socialistes pour s'exposer comme ça. Mais dans sa masse, c'est la corporation pensante, parce que il n'y a pas 100% des ouvriers qu'on peut classer dans le monde pensant, beaucoup de suivisme, mais ceux qui pensent un peu. Tout cela a été gagné aux idées du communisme et l'action du Parti communiste pendant la guerre avait beaucoup fait, surtout dans les bassins miniers. Alors le congrès, on avait conscience des menaces qui pesaient. Les décrets Lacoste qui ont été à la base de la grève de 1948, ce n'est qu'une petite partie de ce qu'on a appelé les préconisations du rapport Walsh. Walsh, c'est un gars des charbonnages qui avait présidé une commission. Et alors là, c'était la hache. La hache a passé dans tous les acquis sociaux. Et d'ailleurs, ceux qui s'intéressent à ça, je leur conseille de relire le rapport qu'Henri Martel avait fait sur le rapport Walsh devant le congrès de Saint-Étienne, qui était vraiment, vraiment pas extraordinaire. Bon, c'est un très grand bonhomme, Henri Martel, très grand, très fin analyste, député mineur, connaissant très bien le sujet. Et là, bon, moi j'étais intervenu, j'avais fait l'intervention qu'on m'avait demandé. Quand je relis l'intervention que j'ai faite, je la trouve pas extraordinaire, mais pareil que tous ceux qui l'ont écoutée l'ont trouvée extraordinaire. Il y avait sans doute le ton, la fougue. Modestement, je dirais que j'étais pas un mauvais orateur. Je croyais à ce que je disais. Et quand on croit à ce qu'on dit, on est plus convaincant que quand on récite un catéchisme auquel on croit pas. Hein? Donc, j'ai jamais su qui a proposé lors de la réunion. Le bureau fédéral était élu par le Conseil national. Alors, pas de problème, j'étais proposé au Conseil national. Et quand je me suis levé de ma nuit de noces le dimanche matin, je prends le quotidien communiste du Nord qui paraissait le dimanche. Bien sûr, tout de suite, je vais regarder les résultats du congrès. Avec stupéfaction, je vois que je suis élu au bureau fédéral.
Maurice, ce document est tout à fait passionnant. Je pense que pour nos auditeurs, c'est intéressant de remarquer ce que nous apporte un témoignage comme celui-ci sur la mémoire. On voit qu'il y a des indices très précis. Donc Blondeau a des souvenirs très précis parce qu'il y a son mariage qui est en jeu. Il a une admiration pour Henri Martel. Donc là, le passage d'une génération à l'autre, c'est tout à fait passionnant. Et donc, c'est vrai qu'on peut regretter de ne pas avoir les enregistrements de ce congrès. Mais on a d'autres documents, donc je te laisse un petit peu présenter les choses.
Oui, alors parmi ces autres documents, évidemment, la collection des journaux du Patriote du début juin. Et c'est très intéressant de la consulter parce que ça nous place dans un contexte un petit peu inattendu, alors qu'on aurait pu imaginer que la une soit entièrement dédiée au congrès, comme il se devrait. Le congrès vient se télescoper avec un événement juridique. Alors voici la une du mercredi 2 juin, C'est une une qui est très compliquée. Un titre sur 3 lignes et 8 colonnes. La presse française exige la traduction de la tribune en cour de justice. Coup de force contre le patriote. Le camp des travailleurs, des résistants, des républicains mettra en déroute les étrangleurs de la presse libre. C'est-à-dire qu'on comprend bien que la préoccupation majeure du comité de rédaction, c'est de dire, attendez, notre boutique est en péril. Et c'est ça qui est premier. Alors, il fallait bien réserver un élément de cette une pour le Congrès. Il y a une photo de la salle où l'on voit, on le disait tout à l'heure, les grandes fresques étaient installées. Et puis, sur 2 colonnes, l'interview de Jean Sen, qui était le secrétaire de la Fédération du sous-sol, et qui a été en fait le véritable organisateur de ce congrès sur un plan matériel, et qui explique tous ses espoirs qu'il peut placer dans le congrès. Et oui, et qui est stéphanois. Et on retrouve les mêmes préoccupations le lendemain, le 3 juin, où là, dans la une, on mouline les 2 événements dans le même titre. Alors voilà ce titre qui est sur 5 colonnes. Au congrès de Saint-Étienne, après le magnifique rapport de Victorin Duguay, bien entendu, il fallait faire allusion. Écoutez bien, une résolution est votée par les mineurs de France et d'Outre-mer qui déclare intolérable l'agression d'un journal collaborateur contre le patriote. Avouez que l'événement, quand on lit le rapport, l'événement tient en quelques lignes et le patriote en fait sa une. Bon, les éditions du vendredi et du samedi sont plus classiques, où on essaye de rendre compte de ce qui s'est passé, mais ce que l'on peut vraiment faire ressortir, c'est que ces titres et ces articles du vendredi et du samedi, qui auraient dû être des articles qui montraient la richesse des interventions, sont en fait des articles un peu de commande, un peu téléguidés. Alors, je ne cède pas au plaisir de vous lire le titre du 5 juin. Dans l'intérêt de tous les Français, les mineurs seront arrachés de meilleures conditions de vie. Bah, évidemment, mais ça, on le savait depuis la guerre, quoi. Et bon. Et pour finir la boucle, dans ce dernier numéro du 5 juin, là, en page intérieure, une photo où l'on voit Benoît Frachon, Victorin Duguay et Henri Gras, qui est l'administrateur du Patriote, expliquer que les dirigeants de la CGT sont aux côtés du Patriote. Mmh. Voilà, on a tout résumé. Le Congrès, il est pris dans les mailles du filet qui est le problème de la presse à Saint-Étienne.
Oui, qui est aussi le problème du contexte. Du contexte sur lequel je vais revenir rapidement, simplement en commençant par une citation tirée de l'intervention de Victorin Duguay, donc du secrétaire général de la Fédération, qui commence quasiment son rapport en disant « Je voudrais à cette occasion indiquer que je regrette qu'un certain nombre de personnalités que nous avons invitées n'aient pas cru devoir accepter notre invitation. Je le regrette, comme je suis assuré que beaucoup le regrettent eux-mêmes, car ils ont reçu du gouvernement l'interdiction absolue d'assister à notre congrès. » Donc on est en juin 1948 et ces quelques phrases nous montrent qu'on est entré complètement dans la guerre froide. On peut faire le parallèle avec le congrès précédent, qui est d'ailleurs souvent mentionné dans ces documents, le congrès de Montceau-les-Mines, qui a eu lieu en février 1946. Il faut songer qu'à la tribune du congrès de 1946, à Montceau-les-Mines, il y a le vice-président du conseil, il y a le ministre de la production industrielle, il y a le ministre de la formation professionnelle. Il est vrai que le premier, c'est Maurice Thorez. Le second, c'est Auguste Lecoeur, et le troisième, c'est Marius Patineau. Ce sont tous des ministres communistes. Mais il y a aussi des représentants de l'État. Il y a le préfet, le sous-préfet. On est à Montceau-les-Mines en 1946, à une époque où le Parti communiste est au pouvoir. 2 ans après, les choses ont totalement changé. Et on est dans un contexte de guerre froide. Le Parti communiste a été évincé du gouvernement. Ça fait déjà un an, en juin 1948. Il est dans une opposition qui s'est radicalisée. comme s'est radicalisée d'ailleurs l'opposition du gouvernement, l'attitude du gouvernement à l'égard des communistes. Donc une radicalisation qu'on sent dans les conflits, notamment la fameuse grève de novembre-décembre 1947, et dans les relations internationales. Alors à ce congrès, le document que nous avons sous les yeux nous permet quand même de faire une présentation un peu de... Qu'est-ce que c'est qu'un congrès ? Peut-être que pour les auditeurs, ça peut être quelque chose d'intéressant. Il faut savoir quand même que c'est quelque chose qui... C'est une organisation qui est très lourde. Tu as signalé le rôle de Janssen là-dedans.
600 délégués. Hein.
600 délégués, 4 jours. Ouais. Hein. Chaque fois, pour chaque jour, 2 sessions d'une demi-journée, plus ou moins longue, mais quand même. Avec dans ces sessions des rapports sur des questions spécifiques. C'est-à-dire qu'un congrès, c'est une réunion de travail. Et je crois qu'il faut bien insister là-dessus, et les orateurs y insistent beaucoup, des discussions sur ces rapports. Là, on sent bien dans la lecture du compte-rendu que... c'est même pas le compte-rendu, d'ailleurs, c'est les minutes que nous avons sous les yeux. Hein, certaines de ces discussions sont un peu formelles. On n'est peut-être plus dans le syndicalisme tel qu'il était avant la guerre. La présentation aussi de salutations d'organisations nationales, donc le syndicat des postiers, le syndicat des électriciens, etc., ou étrangères, il y a la présence de Belges, d'Anglais, le vote de résolution, tout ceci interrompu régulièrement, soit par la réception de cadeaux qui sont adressés tant à Victorin Duguay ou à Benoît Frachon, etc., tant pour aussi des chants, quelquefois, quand un délégué espagnol intervient, on chante l'international, manière de montrer la solidarité qu'on peut éprouver vis-à-vis de la situation spécifique de ce pays en 1948. Et alors, au début de chaque demi-journée, on commence par la désignation du bureau et du président. Alors ça, c'est intéressant aussi. C'est une composition qui est soigneusement préparée à l'avance. Et c'est souvent le résultat d'un dosage qui se veut assez porteur de signification. Alors, par exemple, si je prends simplement le premier jour, donc c'est, comme tu l'as dit, Janssen qui ouvre la session. Alors, je lis le passage. « Nous vous proposons pour la présidence effective le camarade Guyon, secrétaire régional de la Fédération des mineurs de la Loire. » Applaudissements. « Assister les camarades Léon Delfos du Pas-de-Calais. » Applaudissements. Moshé du Nord, René Madesclerc, secrétaire général du syndicat national des ingénieurs des mines, Girard, des employés, Jolivet, des ardoisières de Longjou, Donne, mine de fer de la Moselle, Nicolas, un jeune, des mines de charbon de la Moselle, Simone Procureur, trieuse du Pas-de-Calais, Guignan, président de l'Union régionale du Centre pour la Sécurité sociale, Dubarry, de l'Algérie, Alal, du Maroc, Varenne, retraité. Applaudissements. Et donc là, on a... Toutes dans cette composition, la répartition géographique, on remarque que les colonies sont présentes, la répartition par catégorie, un jeune, une femme, la répartition par métier, ingénieur, une trieuse, un employé de sécurité sociale et les représentants étrangers. Donc la présidence, on l'a vu fixée à Guyon, la vice-présidence à Delfos, et je ne vais pas revenir tout de suite sur ces personnages, simplement... signaler que quand Janssen ouvre le congrès, il le place sous la présidence d'honneur, donc je relis un autre passage, la présidence d'honneur de tous les travailleurs de la mine morts au champ d'honneur, de toutes les victimes de la répression de Jules Mock et consorts. Alors il faut savoir que Sen ne dit pas Jules Mock, mais dit Jules Moche, et consorts, ça permet de... on l'a vu, hein, de faire rimer avec Bosch aussi, de la placer également sous la présidence d'honneur d'un des pionniers du mouvement syndical né dans le département de la Loire, le camarade Michel Rondet. Et donc, cette petite introduction, cette petite phrase, nous montre que les trois axes de la discussion, premièrement, l'engagement national dans la résistance, mais aussi dans la bataille du charbon, l'insistance un peu plus loin sur le rôle de Claudius Delorme. Or, Claudius Delorme, c'était le président du syndicat de la Loire avant la guerre. Il est mort dans les prisons de Vichy et dans la Bourse du Travail. Alors, je crois que c'est quelques semaines auparavant, on a mis une plaque de marbre pour célébrer notamment la mémoire de Claudius Delorme. Et à plusieurs reprises, les congressistes y reviennent. Deuxièmement, l'engagement dans les luttes sociales, et plus particulièrement celle de l'automne 47 avec la référence à Moche. Troisièmement, avec la référence à Michel Rondet, c'est implicite, mais on va voir que ça revient plusieurs fois, la référence aussi à l'unité du syndicat. Et Michel Rondet, pourtant, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la façon dont est récupérée la mémoire de Michel Rondet, qui était loin d'être sur les thèses collectivistes et révolutionnaires. Mais Michel Rondet, c'est le fondateur d'un syndicat unitaire. Or, en juin 48, on est en pleine phase de division syndicale. Donc ensuite vient Victorin Duguay, je ne vais pas parler longuement, son rapport. Il définit dans son rapport les trois objectifs principaux du Congrès. Premièrement, la lutte pour le pouvoir d'achat. Deuxièmement, qui passe par la revalorisation de la profession. Deuxièmement, l'idée que le charbon est une richesse française qu'il faut préserver et qui est menacée par une politique du gouvernement au pouvoir. Troisièmement, il faut développer le syndicat. Puis donc le congrès se déroule de jour en jour avec des rapports, des discussions. Vient ensuite le bilan financier, le bilan des adhésions qui est présenté par Janssen et qui annonce quand même, tout en rouspétant, hein, nous avons placé au 31 mai 1948 321 532 cartes. Il rouspète, Janssen. Il dit, par exemple, et peut-être les syndicalistes d'aujourd'hui pourraient méditer ce qu'il dit, « Dans le bassin de la Loire, c'est intolérable. Il y a 24 000 mineurs et moins de 13 000 syndiqués. » C'est-à-dire qu'il y a quand même 50% des mineurs qui sont syndiqués. Je pense que beaucoup de syndicats seraient aujourd'hui contents d'avoir une telle proportion d'adhérents. Donc vient ensuite la clôture avec le discours du secrétaire général, donc Benoît Frachon, longuement applaudi, souvent interrompu. Et à partir de là, eh bien, on va demander à Maurice de nous présenter les principaux axes. Mais on va peut-être faire une petite pause musicale.
Et je m'en vais, clopin, clopin. Dans le soleil, et dans le vent. De temps en temps, le cœur chancelle. Y a des souvenirs qui s'amoncellent. Et je m'en vais, clopin, clopin, en promenant. Mon cœur d'enfant, comme s'envole une hirondelle, la vie s'enfuit, attire d'elle, ça fait si mal au cœur d'enfant, il s'en va seul, clopin, clopin. Je suis né avec des yeux d'ange et des fossettes au creux des joues. J'ai perdu mes joues et mes langes et j'ai cassé tous mes joujoux. Je me suis regardé dans une glace et j'ai vu que j'avais rêvé. Je me suis dit, faudra bien que je m'y fasse. Tout finira par arriver. Et je m'en vais, clopin, clopin, dans le soleil et dans le vent. De temps en temps, le cœur chancelle. Y a des souvenirs à mon sel, et je m'en vais, clopin, clopin, en promenant mon cœur d'enfant, comme s'envole une hirondelle, vie s'enfuit à dire d'elle. Ça fait si mal au cœur d'enfant. Tu s'en vas seul, clopin, clopin.
Parmi les dossiers importants abordés au cours de ce colloque, nous en avons inventorié un certain nombre. Je ne sais pas dans quelle mesure nous allons pouvoir en parler véritablement dans le fond, mais il y en a un thème, une thématique qui traverse absolument toute la durée du congrès, du premier jour au dernier jour. C'est ce que Achille Blondeau annonçait tout à l'heure, c'est le rapport Walsh. Alors, il y a évidemment une certitude qui apparaît très clairement parmi toutes les interventions, c'est que la politique de nationalisation des charbonnages est en train d'être remise en cause par le gouvernement. Cette remise en cause de la nationalisation des charbonnages est notamment orchestrée à travers des ingénieurs des mines dont le gouvernement a pris conseil, et probablement parmi eux, quelqu'un qui leur est proche et qui s'appelle Jacques Walsh, qui a produit un rapport et qui n'a pas encore été rendu public, mais que les membres du Congrès se sont procurés. Et Victorin Duguay avoue qu'il possède dans son cartable ce document. Alors, je vous avoue que je suis très content, moi, de l'avoir, ce rapport Walsh. Je ne sais pas s'il existe véritablement encore, mais ça sera une des missions que nous allons nous confier. Parce que ce rapport, je crois qu'il annonce toute une réflexion sur la politique charbonnière qui nous a poursuivis jusque dans les années 60-70.
Au moins, il annonce les décrets Lacoste du septembre.
Et en plus, sûr, bien entendu, sûr. Les décrets Lacoste se sont tout simplement appuyés sur le rapport Walsh. Et c'est absolument intéressant de se dire que pendant toute la grève de 1948, ce sont les décrets Lacoste qui ont été en première ligne, évidemment, mais que jamais nous n'avions trouvé d'allusion à ce rapport Walsh. Alors pourquoi est-ce que je disais que ce rapport nous intéresse au plus haut point, parce qu'il porte en germe toute une réflexion qui va perdurer? C'est parce qu'il se développe au niveau de trois réflexions: au niveau de la rentabilité de l'exploitation, au niveau de l'ouverture des marchés commerciaux du charbon au niveau européen et mondial, et au niveau de l'interventionnisme des autres pays, des grandes puissances. Alors, ce thème de la rentabilité est abordé à la fois le premier jour par Victorin Duguay et le troisième jour par Léon Delfosse. Je reprends un passage que l'on trouve dans le rapport de Léon Delfosse. Monsieur Walsh dit que la victoire du charbon a été une victoire de production, mais elle n'a été acquise que par la mise au travail d'un effectif très nombreux. Donc là, on fait allusion à la bataille du charbon. Cette victoire a été une défaite au point de vue du rendement, donc au point de vue du prix de revient. Là, c'est entre guillemets, c'est le point de vue de Walsh. Et voilà ce que Léon Delfosse ajoute. Monsieur Walsh propose dans ce rapport, ouvrez les guillemets, de réduire les effectifs aussi bien sur le secteur ouvrier qu'employé et agent de maîtrise. Okay. Alors, je crois que c'est très clair. Hein.
Les décrets Lacoste sont là, effectivement.
Voilà. La bataille de la production a été gagnée par une augmentation des effectifs, ce qui a déclenché des coûts de production qui sont devenus trop élevés. Alors, pour diminuer les coûts, la seule solution qui est proposée par Walsh, c'est de diminuer les effectifs et, sous-entendu, abandonner les gisements non rentables. Alors, parallèlement, et c'est le deuxième thème qu'on voit annoncer à travers ce rapport, c'est l'ouverture des marchés commerciaux du charbon. Ces marchés européens et mondiaux vont couvrir notre déficit de production. C'est clair, le charbon français, désormais, en 1948, est concurrencé par le charbon américain et le charbon allemand. Alors, cette fois, je regarde une partie des interventions de Victorin Duguay, tout à fait au début du congrès, qui dit « Nous commettrions un crime envers nous-mêmes, Français, si nous abandonnions sous prétexte qu'ils sont moins rentables que les gisements de la Ruhr et les gisements d'Angleterre, un certain nombre de gisements français qui peuvent être exploités dans des conditions honorables, dans des conditions profitables à l'intérêt de notre pays. » Voilà, voilà, tout est dit. Hein. C'est-à-dire que nos gisements sont moins rentables. Il existe en même temps une surproduction américaine, notamment. On continue le raisonnement qui va de soi. La France ouvre ses frontières avec une importation de charbon pour couvrir ses besoins et, allons jusqu'au bout, avec des dépenses qui sont dénoncées lors du Congrès, une dépense, disent-ils, de 450 milliards de francs par an.
Et on peut noter l'actualité des propos, l'actualité des propos et aussi la façon dont le syndicat, mais aussi le Parti communiste, hein, qui y a une résonance entre les deux, se place sur un terrain patriotique en dénonçant le cosmopolitisme de la droite et donc son manque de sens national.
Ouverture des frontières, importation du charbon et deuxième conséquence, accentuation du chômage dans les mines. Oui. Alors là, je reprends aussi un passage de Victorin Duguay. Parce que les Américains ont du charbon à revendre, qu'ils éprouvent un certain nombre de difficultés chez eux pour écouler leur propre production, on vient dire aux mineurs français, vous avez été bien gentils de vous tuer au travail pendant que nous n'avions pas de charbon, mais maintenant que les Américains nous en envoient, maintenant que les Anglais s'apprêtent à nous en envoyer, alors, mineurs français, vous êtes bien gentils d'avoir fait tout cela, mais vous allez dorénavant connaître le chômage. C'est le thème principal, hein, celui qui est abordé dans le rapport Walsh à travers ces questions de production, de nécessité d'abandonner un certain nombre de gisements rentables et de prévoir le chômage à venir. Mais ce n'est pas seulement cet aspect. Il y a aussi l'aspect du logement. Walsh, dans son rapport, s'attaque à cette question-là. Et il dit, semble-t-il, il avoue une volonté de réviser les clauses du statut du mineur. Alors, on se souvient que dans le statut du mineur, il était prévu que chaque mineur avait droit à un logement. Et là, dans le rapport, il est annoncé que il serait peut-être envisageable de dire que les retraités, finalement, qui ne sont plus des productifs, eh ben, après tout, ils n'ont plus besoin d'être logés par la mine. Et le calcul a été fait, le gain serait de 50 milliards de francs par an. Alors, je reviens là encore à Yvon Delfosse à ce propos. Monsieur Bowell, rapporteur général de la Commission des finances du Conseil de la République, disait « Il faut réviser la clause du statut des mineurs concernant le logement aux retraités, car on dépense chaque année, à cause de ce statut, 50 milliards rien que pour loger les pensionnés. » Troisième thème qui est développé par Walsh, c'est l'absentéisme. L'absentéisme est dénoncé violemment et dans son intervention, Delfosse signale que ce qui aurait été prévu par Walsh, c'est qu'un ouvrier manquant plus de 6 jours de suite sans motif valable sera réputé démissionnaire. L'ouvrier ayant manqué 15 jours ou plus en 6 mois, sauf motif valable, pourra être licencié. Alors, nous sommes là à une fracture. de l'histoire ouvrière des mineurs. Jusqu'à présent, beaucoup de mineurs étaient des ruraux, ils pratiquaient la biactivité, et pendant les récoltes, ils s'absentaient effectivement plusieurs semaines, une semaine, 15 jours. Et on veut faire des mineurs des vrais ouvriers qui sont totalement dévoués à leur travail. Quatrième thème qui est abordé dans le rapport Walsh, c'est l'attribution des congés payés. Et ça aussi, c'était clairement annoncé dans le statut du mineur et considéré comme une victoire inaliénable. Voilà ce que Walsh propose. La première année, on ne concède que 3 jours de congé aux mineurs. Puis, on lui donnera 1 jour de congé par année d'ancienneté. Alors, vous voyez qu'il va falloir travailler longtemps hein, et peut-être mourir avant pour avoir des vrais congés. Et il en conclut que ces congés ne pourront pas dépasser 24 jours ouvrables. Donc, quand le mineur aura 50 ans, peut-être bien que finalement, il pourra avoir ces 3 semaines de congés.
Donc, c'est clair, absentéisme, rendement, congés payés, logement, c'est vraiment le contenu des décrets Lacoste qui sont pris en début septembre 1947 et qui vont 48 et qui vont conduire au déclenchement de la grande grève d'octobre 48.
Alors, Victorin Duguay et Yvon et Léon Delfosse dénoncent, une fois qu'ils ont présenté ce rapport Walsh, là, l'interventionnisme américain dans la politique française, à plusieurs niveaux. À propos de la réorganisation de l'Europe, qui effectivement est basée sur l'argent qui est prévu à travers le plan Marshall, et notre région du bassin de la Loire va profiter de ces capitaux. Interventionnisme américain qui est responsable de la scission FO-CGT, on aura l'occasion d'en reparler. Et interventionnisme américain, disent-ils, qui est à l'origine des choix gouvernementaux en hommes et en politique. Alors, bon, on va les prendre pour argent comptant. On les écoute, là, notamment Duguay. Alors voilà ce qu'il est dit. Nous ne pouvons pas admettre que par ordre d'un plan soi-disant de réorganisation de l'Europe, on arrête la modernisation des mines françaises. Autrement dit, le raisonnement qui revient à plusieurs reprises autour du Congrès, c'est de dire que les mineurs français ne sont plus les maîtres de leur destin. Et que ce destin, il est piloté de l'extérieur par les Américains, de l'extérieur par l'Europe qui est en train de se constituer, et de l'extérieur par un gouvernement qui n'est plus des leurs. Voilà l'essentiel de ce qu'on peut peut-être dire sur ce rapport Walsh qui est tout à fait essentiel.
Voilà, et puis on avait relevé un certain nombre d'autres thématiques. Donc,
alors la thématique
tu vas résumer un peu, parce que...
du pouvoir d'achat... Oui. Alors on est parfaitement au courant et c'est souvent développé dans le Congrès que
l'inflation,
les situations sont de plus en plus périlleuses.
Et c'est une autre question qui va être au cœur de la grève de 48. Hein. Le problème de l'inflation et du fait que les mineurs ne s'y retrouvent pas dans leur salaire.
Et j'ai trouvé absolument savoureuse la déclaration des camarades mineurs retraités de Saint-Rambert-sur-Loire tout à fait à la fin du congrès, qui interviennent à la tribune alors qu'il ne restait plus de temps et qui disent qu'ils demandent que la ration de pain soit augmentée et la qualité améliorée, car les porcs sont mieux nourris que nous. Ils mangent la farine et le peuple mange les déchets, ce qui ne saurait être toléré plus longtemps. Je trouve que ce sont des expressions très fortes. Oui. Qui nous remettent un petit peu dans un contexte de la Révolution française.
Et qui nous rappellent que le problème du ravitaillement est plus aigu en 1947-48 qu'il ne l'était encore en 1943. Et ça fait partie des grandes déceptions ouvrières de l'après-guerre.
De tout le temps me taire, j'en ai plein le dos, il faut que ça sorte. Je suis là d'encaisser sans dire un mot tout ce que je supporte. je sais bien que c'est idiot de me rebiffer, j'en conviens, c'est pas ça qui me fera bouffer, ça ne fait rien, je sens que ça finit par m'étouffer. J'ai fait tout ce que j'ai pu, à la fin, j'en peux plus. Toujours au turbin, du soir au matin, moi j'en ai marre. De toujours manger de la vache enragée, moi j'en ai marre. Se dire faut que ma peine, je la traîne fourbue. Jusqu'à ce que je crève sans rêve, sans but. N'avoir pour toilette que celle que l'on jette, moi j'en ai marre. N'avoir pour croque-nos que ceux qui prennent l'eau, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. Sans être socialo, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre. Ne croyez surtout pas que j'envie ceux qui sont riches, les autos, les bijoux, la grande vie, moi je m'en fiche. Mais enfin, tout est bien mal balancé, et le destin, à quoi donc il a pensé, quand certains en ont tant et d'autres pas assez. Au fond, c'est ça qui fait, parfois on devient mauvais. Toujours au turbin, du soir au matin, moi j'en ai marre. Vivre nuit et jour sans un peu d'amour, moi j'en ai marre. En fait de tendresse, caresse, je n'ai rien que celle que si bonne me donne mon chien. Recevoir des beignes sans que personne me plaigne, moi j'en ai marre. Voir quand on m'approche que les gens me trouvent moche, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. Sans être socialo, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre.
Bravo Lionel d'avoir sorti des cartons « J'en ai marre » de Mistinguette. Ben oui, les mineurs eux aussi pouvaient chanter cette chanson « J'en ai marre hein. ». Alors, parmi les autres thèmes qui sont abordés au colloque, il y a celui des mineurs d'Afrique du Nord. Jean-Michel faisait allusion, il y avait des représentants, car il y avait une grève dans les mines de phosphate qui durait déjà depuis 50 jours, une grève de 1700 mineurs. Et pour ma part, j'ai été heureux de découvrir que quand on parle de nationalisation des mines françaises, ben, ce n'est pas les mines d'Afrique du Nord. Et il faut le dire très clairement que le statut d'une mineure n'avait pas été adapté, n'a pas été incorporé aux mines d'Afrique du Nord, et que les retraites n'étaient pas versées, que les salaires étaient faibles. Enfin bref, il n'y avait pas du tout d'alignement sur le statut du mineur français. Autre chose, autre découverte intéressante, c'est à propos de l'intervention qui est faite par l'ingénieur cégétiste Madescler. Il faut savoir qu'en 1946, il y avait 1300 ingénieurs CGT qui avaient adhéré à la CGT, un petit peu dans l'euphorie des nationalisations avec un gouvernement communiste, avec la conviction que les mines allaient être un rouage social important dans les années qui viennent. Et puis le retournement de la vie politique fait que, au moment du congrès, Madescler a l'honnêteté d'avouer qu'on est retombé à 150 syndiqués. Et je peux vous dire que sur Saint-Étienne, on se demande si on n'est pas proche de quelques unités seulement d'ingénieurs syndiqués CGT. Jean-Michel, peut-être revenir à nouveau sur la prestation d'Achille Blondeau qu'on a entendu tout à l'heure.
Oui, et puis pour, à travers ce passage court que l'on va rediffuser d'une partie de cette intervention, revenir sur une question qu'on a déjà abordée avec Jean-Paul Bentière, mais qui est ici, on va la voir un petit peu in vivo. C'est la question de la division syndicale et de la création du syndicat FO.
Le congrès de Saint-Étienne faisait suite à la scission de FO, qui avait été un échec dans la corporation. Roland Trempé l'a souligné dans plusieurs ouvrages. La corporation minière était acquise aux idées du communisme. Elle était acquise aux idées des socialistes avant la guerre. Les syndicats, les dirigeants syndicaux socialistes avaient presque tous trempé dans la charte du travail. Ça avait été la croix et la bannière lorsqu'on a reconstitué l'unité syndicale en 1945 pour trouver des socialistes pour faire partie des organismes des directions. C'est Sinou qui a été secrétaire général adjoint de la fédération, Sinou le secrétaire du syndicat des mineurs de Carmont, socialiste, chartiste, qui n'a pas été exclu par la commission d'épuration CGT-CFTC, parce qu'il fallait bien qu'il reste quelques socialistes pour... comme ça. Mais dans sa masse, c'est la corporation pensante, parce que il n'y a pas 100% des ouvriers qu'on peut classer dans le monde pensant, beaucoup de suivisme, mais ceux qui pensent un peu, tout cela a été gagné aux idées du communisme. Et l'action du Parti communiste pendant la guerre avait beaucoup fait, surtout dans les bassins miniers.
Donc un passage qui mériterait à lui tout seul presque un article, voire même un chapitre. Ce témoignage de Blondeau, 60 ans après, 62 ans après même, montre la force qu'a représenté cette scission. D'abord, la douleur. Je pense que dans ce qu'il dit, il y a encore quelque transparaît encore la douleur ressentie. Et on l'avait cité plusieurs fois. Joseph Sandels l'indique souvent dans ses livres et dans ses témoignages. Et je crois que le rôle de l'historien, c'est aussi de rétablir un petit peu la vérité. Alors je crois que la première chose que je voudrais dire, il y a évidemment dans ce discours qui est très marqué par l'esprit d'après-guerre, quelque chose que l'historiographie a totalement infirmé aujourd'hui, à savoir que les dirigeants syndicaux socialistes avaient presque tous trempé dans la charte du travail. Bien sûr, il y a des dirigeants qui ont été convaincus par les thèses de Belin, par le discours de Pétain du 1er mars 1941, bien sûr. Mais l'historiographie montre aujourd'hui que la résistance socialiste a été une réalité, qu'elle a été très forte et très présente dès le début de la guerre. Donc là, on est vraiment dans la représentation de ce qu'un jeune dirigeant syndicaliste de l'après-guerre, adhérent du Parti communiste, s'est fait de ce qu'étaient les socialistes. Et cette image, elle est à la fois le résultat d'une volonté politique du Parti de s'imposer comme le Parti de la Résistance, et je dirais aussi d'une faiblesse des socialistes, d'une pudeur peut-être des socialistes à mettre en avant leur action résistante. Et ça a joué longtemps dans la coupure entre socialistes et communistes. Alors je crois que l'archive, quand Blondeau prononce le mot « trempé », on voit bien comme il insiste là-dessus, ils ont trempé. Donc il y a une espèce de hargne contre ce souvenir. Maintenant, la deuxième chose, la corporation des mineurs était acquise aux idées du communisme. J'émets quand même des doutes que les mineurs aient voté pour le Parti communiste, oui, à 100%, certainement pas. Alors, ce qui est la suite du discours du passage nous montre que, quand même, Blondeau fait la distinction entre ce qu'il appelle la corporation pensante. Ça, c'est joli comme expression. La corporation pensante, donc, quand on pense, on vote communiste. Ceux qui ne votent pas communiste, ce sont ceux qui ne pensent pas. Donc là, on a vraiment un discours qui est assez significatif. J'ajouterais que dans le congrès, il y a deux passages qui sont intéressants. D'abord, l'intervention de Feulpin, page 37 dans le rapport qu'on a. Je vais la retrouver rapidement parce qu'elle nous montre le souci. Voilà, il parle du syndicat des mineurs de Ronchamp, donc petit syndicat, hein, c'est un petit bassin, mais il dit « Nous sommes fiers et nous voudrions que dans tous les bassins miniers, la situation soit la même. Chez nous, un syndicat, le seul, adhérent à la CGT, groupe dans son sein tous les travailleurs de la mine, fonds et surface, tous les agents de la maîtrise, tous les ingénieurs, qui naturellement sont syndiqués tous à la CGT. Applaudissements. » Donc voilà, le souci majeur des dirigeants syndicaux, et Benoît Frachon le reprendra dans sa conclusion, c'est que cette scission ne perdure pas. Or, justement, le congrès national d'octobre 58, on le sent encore qu'il y a ce désir, mais la grève de 48, d'octobre 48 va faire la litière de ce souvenir et de ce désir. Et puis il y a un autre passage qui nous montre la limite de ce désir d'unité, c'est quand Moshé du Pas-de-Calais fait la présentation de la détermination anti-force ouvrière de la CGT sur un mode un peu ironique. Il dit j'entendais un camarade dire que les mineurs du Pas-de-Calais avaient frappé et fait une conduite un peu brutale à des gens qui ont des mandats qui ne leur appartiennent pas. Il parle de gens de FO. Eh bien, je puis vous dire qu'ils ont été doux, nos camarades du Pas-de-Calais. Mais je dis aussi que si des Sinos, donc Blondeau parle de Sinos, viennent dans le Nord, ils pourront faire attention à eux, car ils pourraient bien être vaccinés contre la jaunisse. Donc évidemment, allusion au syndicat jaune. Voilà, Maurice, en deux mots pour la conclusion. C'est un congrès qui, évidemment, prépare le contexte de la grève de l'automne.
Un super moment de réflexion que nous avons partagé autour de ce congrès.
Et oui, la grève de 48, on rappelle bien sûr et on renvoie à l'ouvrage que vous avez co-réalisé, hein, d'ailleurs, consacré à cet événement. Mais c'est un autre sujet, effectivement. Congrès, justement, il est question, juste pour la petite transition, parce que j'ai aussi cette petite information, aujourd'hui et demain se tient le congrès statutaire, 11e congrès statutaire de l'organisation syndicale CGT, salle Jacques Brel à Terre Noire, voilà, juste pour faire aussi le lien, transition avec l'actualité. On renvoie aussi, on rappelle les petites références musicales très rapidement. On a écouté Clopin Clopin, Charles Dunant, interprété par Yves Montand, Mistinguette, et le titre J'en ai marre, bien sûr. Je parlais en ouverture de la dernière émission en date, il y a une petite confusion de ma part. La dernière émission n'était pas consacrée à l'exposition d'ici et de là-bas, mais était consacrée, Maurice Bedouin, au site métallurgique de Londen, avec René Commer, de l'après-guerre à nos jours. Donc simplement, petite correction, petit correctif. Je rappelle surtout que toutes ces émissions sont en ligne sur le site dédié du Grémos, les www.gremos.l'autre.net. La prochaine émission en partenariat avec le Grémos aura lieu le 21 février prochain, précisément encore sur la grève des mineurs de 1963. Voilà, autre sujet, autre programme. À bon entendeur, prochain rendez-vous donc au mois de février prochain. À très bientôt.
Merci.